Le petit Johannes, chapitre 8. Encore quelques jours et je le retrouve, se dit Johannes, quand les premières tièdeurs fondirent les neiges et que, par petites troupes, les perce-neiges se mirent à fleurir. À toutes, il demandait, va-t-il revenir? Mais ignorante, elle demeurait, les clochettes pendantes, confuse de s'être tant pressée d'éclore et désireuse de disparaître. Ah! L'eût-elle pu. La bise acerbe se reprenait à souffler la neige en s'amoncelant de nouveau, les ensevelissait. Quelques semaines plus tard apparurent les violettes. Leur suave senteur flottait entre les broussailles. Puis, quand le soleil eut encore longuement chauffé la terre, les primevères s'épanouirent par centaines et par milliers. Les violettes cachées dans les gazons, avec le mystère de leur parfum errant, étaient les avant-courrières lointains du renouveau, tandis que les primevères aux fleurs d'or, pareilles à des rayons dont la terre se fût tracée une parure, figuraient le printemps lui-même dans toute sa grâce et sa magnificence. Maintenant, certes, l'isseron ne tardera pas à paraître, pensa Johannes. Les bourgeons des arbres pointaient hors de l'écorce leur jet d'un vert tendre aux écailles brunes entr'ouvertes. Longuement, il les épiait sans arriver à surprendre leur croissance. Mais, pour peu qu'il tournât le dos, il les retrouvait grandis. « Ah ! Se dit Johannes, je les intimide, ils n'osent pas quand je les surveille. » Déjà la verdure donnait de l'ombrage et l'isseron n'était point revenu. Nul ramier n'était descendu, aucune souris obligeante ne l'avait interpellé. S'il se mettait à converser avec les fleurs, elle faisait la sourde oreille. « Ma faute, se dit-il, n'est pas encore expiée sans doute. » Près de l'étang, dans l'herbe, une jeune enfant était couchée, dont Johannes n'apercevait que la robe d'un bleu pâle et les blonds cheveux. Un rouge-gorge perché sur son épaule, lui mangeait dans la main. Elle détourna la tête, aperçut Johannes et lui dit « Bonjour » avec un geste amical. Il frémit tout entier. Il reconnaissait le regard de l'isseron et entendait sa voix. « Qui êtes-vous » demanda-t-il et son émoi faisait trembler ses lèvres. « Je suis Roby. Vois, j'ai un oiseau familier. Il n'a pas peur de toi. Aimes-tu les oiseaux ?» Le rouge-gorge se posa sur le bras de Johannes. Tout était de nouveau comme par le passé, et ce ne pouvait être que l'isseron qu'il avait devant lui. « Dis-moi qui tu es ?» reprit la voix de l'isseron. « Ne me reconnaissez-vous pas ? Avez-vous oublié que je m'appelle Johannes ? Comment le saurais-je ? » Il s'étonna. N'était-ce pas la même voix douce et familière, les mêmes yeux sombres et profonds comme des ciels ? « Vous croyez donc m'avoir rencontré autrefois, que vous me regardez avec cette insistance ? » dit-elle. « Il me semble. Ce doit probablement être en rêve. »« En rêve ? » répéta Johannes. « Tout le passé ne serait-il qu'un rêve ? Ou bien est-ce en ce moment-ci que j'ai rêve ?»« Où es-tu né ? » s'informa-t-il. « Loin d'ici, dans une grande ville. » Parmi les hommes, Roby se prit à rire et, encore une fois, ce rire tinta aux oreilles de Johannes comme le rire de l'isseron. « La belle demande » fit-elle. « Et toi ?»«
Moi aussi. »«
Tu le regrettes ? N'aimes-tu pas les hommes ?»«
Oh non ! Qui peut se plaire au milieu d'eux ?»«
Johannes, quel drôle de bonhomme tu fais ! Préféreras-tu les bêtes, dis ? » ?»«
De beaucoup, ainsi que les fleurs. »
« Moi aussi parfois, mais ce n'est pas bien. Nous devons aimer les hommes, m'a enseigné mon père. »«
Pourquoi n'est-ce pas bien ? J'aime qui il me plaît, que ce soit bien ou mal. »«
Fille Johannes, n'as-tu pas des parents ? N'as-tu personne qui s'occupe de toi ? Ne les aimes-tu pas ?»«
Si, répondit-il pensif, j'aime mon père, mais non parce que c'est bien de le faire, non plus parce que c'est un homme. »
« Et pourquoi alors ?»«
Je ne sais pas. Sans doute parce qu'il ne ressemble pas aux autres et qu'il aime aussi les fleurs et les oiseaux. »«
J'en fais autant, Johannes, foi. » Et Robbie appela le rouge-gorge qui vint se poser sur sa main et à qui elle dit des paroles câlines.
« Vous aussi, je vous aime, » reprit Johannes.
« Déjà? Vraiment, vous allez vite ?» répliqua la rieuse enfant. « Dis-moi qui tu aimes par-dessus tout. »
Il hésita. Prononcera-t-il le nom de Liceron ? Constamment, il craignait que ce nom ne lui échappât devant les hommes. Cet enfant blond en robe bleue et Liceron n'incarnait-il pas le même être ? Sans quoi, d'où pouvait provenir le paisible bonheur qu'il éprouvait auprès d'elle ?
Vous, répondit-il brusquement, et son regard chercha les yeux profonds de la jeune enfant. Il avait le sentiment de hasarder, dans ses mots, le don entier de sa personne, et inquiète, il attendait comment elle allait accueillir son aveu.
Robbie eut son même rire limpide. Elle lui prit par la main. Son regard ne fut pas moins doux, sa voix moins pénétrante.
« Dis-moi, qu'ai-je fait pour mériter un tel attachement ?»
Johannes resta silencieux, la contemplant avec une confiance sans cesse accrue. Elle se leva et mit son bras sur son épaule. Elle le dépassait un peu de la taille. Enlacés, ils se promenèrent dans le bois où ils cueillirent un grand bouquet de primévères, un bouquet tel qu'il les couvrait presque tous deux de ses fleurs d'un or transparent. Le rouge-gorge sautelait de branche en branche et les épiait de ses petits yeux vifs. Ils parlaient peu, mais souvent leurs regards se cherchaient. Ils étaient étonnés de leur rencontre et incertains de ce qu'ils devaient penser l'un de l'autre. Mais bientôt Robbie dut, à son grand regret, le quitter.
« Il faut bien que je te laisse, Johannes. Nous nous promènerons encore, veux-tu? Je te trouve très gentil. »
Tout en s'en courant, elle se retourna pour lui adresser un adieu.
« Fuite, fuite !»
fit le rouge-gorge en volant après elle. Quand elle fut partie, et qu'il ne resta plus d'elle qu'une image dans l'esprit de Johannes, il ne douta plus de ce qu'elle était. C'était à elle qu'il avait consacré son amitié, et le nom de Liceron s'effaça peu à peu pour se confondre avec celui de Robbie. Les choses reprirent leur aspect d'autrefois. Les fleurs ravies saluaient Johannes, et leurs senteurs conjurèrent ses regrets du logis paternel qu'il avait tant fait souffrir. Parmi les jeunes feuillages, sous les souffles caressants et attiédis de l'avril, il se sentit de nouveau à l'aise comme un oiseau ayant retrouvé son nid. Il soupira et ouvrait les bras, tant il était heureux. Sans cesse, où qu'il dirigeait les regards, il apercevait une forme aux blonds cheveux et en robe de printemps. Johannes se rendait chaque matin à l'étang, très tôt, dès qu'il se réveillait au bruit des moineaux qui se querellaient dans le lierre autour de sa fenêtre et au cri des mésanges s'égosillant au bord de la gouttière dans le clair soleil. Il courait dans l'herbe humide de rosée jusqu'à la maison et, dissimulé derrière un bosquet de jasmin, il y attendait que la porte de verre s'ouvrit et que l'enfant parut. Ensemble, ils cheminaient lentement dans le bois et les dunes voisines, parlant de tout ce qu'ils apercevaient, des arbres, des plantes, des dunes. Johannes éprouvait comme un vertige. Parfois, il se sentait si léger qu'il se croyait capable de reprendre, comme anciennement, son vol dans les airs. Il répétait les histoires de plantes et de fleurs que Liceron jadis lui avait contées, sans plus savoir comment il les avait apprises. Car, dans sa pensée uniquement emplie de sa nouvelle amie, le souvenir de Liceron avait disparu. Quelle jouissance de la voir sourire et de découvrir de la tendresse dans ses regards! Comme autrefois à Presto, il lui faisait part, sans réserve et sans crainte, de tous ses émois. Durant les heures de séparation, il se préoccupait d'elle, et dans tout ce qu'il faisait, il se demandait si Robbie l'approuvera ou non. Robbie vivait, de son côté, dans une joie continuelle. À la vue de Johannes, elle souriait et hâtait le pas, et c'était avec lui, avoua-t-elle même, qu'elle se promenait le plus volontiers.
« Mais, Johannes, demanda-t-elle un jour, comment sais-tu tout cela? Tu traduis la pensée des hannetons et le chant des griffes, tu décris les terriers et le fond des étangs. Les hannetons et les griffes m'ont parlé. J'ai visité un terrier de lapin et le fond des eaux. » Robbie fronça ses fins sourcils et le considéra d'un air légèrement moqueur, mais elle vit qu'il était sincère. Tous deux étaient assis sous un jasmin aux lourdes grappes pendantes. Devant eux s'étendait l'étang avec ses mousses et ses roseaux. Des insectes à longues pattes raillaient les eaux unies, tandis que de petites araignées rouges ne faisaient que plonger et remonter sans répit à la surface. Les vies grouillaient dans les profondeurs, et Johannes, hanté par des rappels obscurs du passé, tâchait de pénétrer du regard les eaux mortes. « Un jour, dit-il, je me suis laissé glisser le long d'un roseau et je mis le pied sur un tapis de feuilles qui, sous mes pas, avait le mouleux du velours. Il régnait un continuel crépuscule car la lumière devait traverser une couche d'algues vertes d'où pendaient de petites racines blanches. Des salamandres venaient rôder. Elles sont curieuses. Et rien n'était plus étrange que ces grandes bêtes qui passaient au-dessus de ma tête. L'ombre épaisse et verdâtre m'empêchait de voir à quelque distance, et les animaux surgissaient à mes yeux comme des ombres noires. C'étaient des scarabées ramant de toutes leurs pattes, et parfois un petit poisson. Je m'aventurais très loin, pendant des heures. Au milieu de l'étang se dressait une forêt de plantes marines, où grimpaient les limaces et où des araignées d'eau construisaient des nids étincelants. Des échardes, stupéfaites, s'arrêtaient, la bouche grande ouverte, les nageoires frémissantes. J'y ai fait la connaissance d'une anguille à qui j'avais, par mégarde, marché sur la queue. Elle m'a raconté ses voyages. S'étant avancée jusqu'à la mer, on l'avait, pour cette prouesse qu'aucune autre anguille n'avait accomplie, nommée Arane de l'étang. Elle dormait toute la journée dans le limon, sauf à l'heure des repas, auxquels ses sujettes fournissaient abondamment, leur vanité étant intéressée à posséder une rane d'un aspect décoratif et grasse au possible. « Mais pourquoi, demanda Robbie, ne peux-tu descendre au fond de l'eau ?»« Maintenant, fit Johannes en ouvrant des yeux pensifs. « Mais je me noyerai. D'ailleurs, ne suis-je pas mieux ici, près de toi, à l'ombre de ce jasmin ?» Robbie, surprise, hocha sa tête blonde et flatta de sa main les cheveux de Johannes. Puis elle regarda le rouge-gorge qui semblait se régaler au bord de l'étang. L'oiseau leva la tête et les considéra de ses petits yeux vifs. « Y comprends-tu rien, mon rouge-gorge » dit-elle. La petite bête lança un regard malicieux et continua de picorer. « Conte-moi tes autres aventures, » demanda l'enfant. Johannes y consentit de bon cœur et Robbie l'écouta, crédule et attentive. « Mais pourquoi ces merveilles ont-elles cessé? Qu'est-ce qui te retient de partir vers les terres lointaines? J'aimerais tant t'y suivre. » Il s'efforça de creuser ses souvenirs. Mais une buée ensoleillée recouvrait l'abîme qu'il avait franchi et ne parvenait pas à se rappeler à la suite de quel événement il avait perdu son bonheur. « Pourquoi ? Je l'ignore, » répondit-il. « Ne m'interrogez plus là-dessus. » Un fâcheux petit gnome a tout compromis. Mais ma vie est de nouveau pleine de joie et je préfère mon sort présent à l'ancien. Les senteurs du jasmin les enveloppaient. Le bourdonnement des moucherons au-dessus de l'étang, en même temps que les rayons du soleil pénétraient Johannes, d'une douce langueur. À la fin, une cloche au branle aigu retentit dans le château et Robbie s'enfuit. Le soir de ce jour, comme Johannes entrait dans sa chambrette et contemplait les jeux de lumière que produisait la lune sur le feuillage du lierre devant ses vitres, il lui sembla entendre hurter. D'abord, il crut qu'une tige remuée par le vent causait ce bruit.
mais on frappait si distinctement par trois coups à la fois qu'à la fin il ouvrit la fenêtre prudemment et regarda. Le lierre contre la muraille luisait pâlement dans la clarté bleue, et son feuillage recouvrait tout un mystère où la lune allumait de petites flammes qui faisaient paraître les ténèbres encore plus profondes. Johannes, ayant scruté l'ombre, finit par découvrir, tout contre la fenêtre, un petit personnage abrité sous une grande feuille de lierre. D'emblée, il reconnut Vestic à ses yeux étonnés. Sur le bout de son long nez, la lune mettait une étincelle. «
Johannes, les temps sont venus. Voici l'avril. »«
Mais, Vestic, de quoi veux-tu que je me préoccupe ? Auprès de Roby, je suis au comble de mes désirs. »«
Mais ce bonheur n'a rien d'assuré. Par contre, il est en ton pouvoir de conquérir, pour Roby et pour toi, une félicité durable. Irais-tu oublier la clé d'or ? Songe, quel délice si tous deux vous possédiez le livre. »
En somme, rien ne presse un cœur, se dit Johannes. Vestic hocha la tête et se laissa glisser à bas du lierre. Le lendemain, Johannes demanda au Rouge-Gorge s'il connaissait le chemin du Cofrat. Roby fut tout étonné de ses paroles. L'oiseau fit signe que oui, tout en guignant la fillette.
« Pas ici, pas ici !» pépiait l'oiseau.
« Que disais-tu, Johannes ?» demanda Roby.
« Comment ? Tu ne sais pas, Roby. Tu ne sais pas où elle est cachée. Tu ne cherches pas la clé d'or ?»«
Non, raconte, de quoi s'agit-il ?»
Johannes dit ce qu'il savait du livre. « Et j'ai la clé d'or et je croyais que tu avais le coffrade, n'est-ce pas, Rouge-Gorge ?»
Mais l'oiseau faisait semblant de ne pas entendre et voletait dans le clair feuillage des hêtres. Ils étaient assis sur le bord moussu d'un sentier qui gravissait de billets une dune plantée de jeunes hêtres et de jeunes sapins. Plus loin s'étalait une mer de verdure aux flots alternés d'ombre et de lumière.
« Je crois bien, Johannes, dit Roby gravement, que je puis découvrir ce qui te préoccupe. Mais que veux-tu dire par cette clé d'or ?»«
Au fait, c'est vrai, je me le demande aussi, » fit-il entre les dents, et ses regards fixaient la forêt lointain. Deux papillons blancs apparurent soudain. Capricieux, sans but, ils folâtraient dans l'azur ensoleillé, et leurs ailes scintillaient dans la lumière. Ils s'approchèrent.
Ils seront, murmura Johannes dans un ressouvenir confus.
Qui est-ce, ils seront ? S'informa Roby.
Le Rouge-Gorge s'enfuit en poussant de petits cris. Dans le gazon, les marguerites, prises d'effroi, fixaient de grands yeux sur Johannes.
Est-ce lui qui t'a donné cette clé d'or ? Insista encore la fillette.
Johannes fit signe que oui et se tut, mais elle voulait en savoir davantage.
« Qui est-ce ? T'apprit-il ces merveilles dont tu me faisais des contes ? Où est-il ? »
Il n'existe plus. Maintenant, il n'y a plus que Roby, plus rien que Roby.
« Que tu es drôle, » fit-elle en riant.
« Va, je te ferai trouver le livre, je sais où il est. »
« Mais auparavant, » répondit Johannes, « je dois aller, loin d'ici. » déterrer la clé d'or.
Non, non, inutile. Je trouverai bien le livre sans cela. Demain, je te le promets.
Quand ils rentrèrent, les papillons folâtraient devant eux. Cette nuit, en songe, il aperçut des visages familiers, son père, Roby et main d'autres. Il n'y avait que des amis. Il l'entoura et le considéra avec une tendresse profonde. Mais soudain, tous les jeux où Johannes lut des sarcasmes se glacèrent. Des faces cruelles et hostiles assiégèrent son chevet. Une angoisse immense oppressait sa poitrine et se réveilla en sanglotant.